15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Avoir le courage de ses opinions relève presque d'une forme d'héroïsme dans cette époque consensuelle. Eh bien, je reçois un homme de trempe, philosophe et romancier, qui s'est toujours penché avec clairvoyance sur les maux de notre société. Pascal Bruckner fait donc paraître chez Grasset un essai dont le sujet nous concerne tous. Il a pour titre « Une brève éternité, philosophie de la longévité ». Et Pascal Bruckner est mon invité.
Europe 1.
Alors, bienvenue dans cette émission qui a pour titre « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Et on peut dire que le titre, effectivement, pourrait presque être celui d'un chapitre de votre essai sur cette longévité nouvelle et ambiguë qui nous est offerte. Hein, parce qu'il y aura forcément d'autres vies dans notre vie.
Ah oui, il y a même plusieurs vies dans la vie d'un homme et d'une femme aujourd'hui. Et toutes ces vies ne se ressemblent pas, toutes ces vies se suivent. Et le seul dénominateur commun entre elles, c'est nous. On dit « je ». Mais on a le sentiment d'être un étranger à soi-même quand on se repense à ce qu'on a été dans l'enfance, dans la jeunesse,
ouais.
Ou même à 30 ou 40 ans, on se dit qui est cet autre moi-même qui me ressemble et qui en même temps n'est plus moi. Mais bon, il faut ensuite essayer de faire le lien entre toutes ces existences passées. Et parfois, on peut essayer aussi de les ressusciter. C'est-à-dire que si on a un désir qui n'a pas été satisfait, si on a une ambition qui n'a pas été remplie, on se dit, le moment est peut-être venu maintenant de la considérer et de tenter de la réaliser alors que je n'ai pas pu le faire quand j'étais plus jeune.
Voilà, et ça peut peut-être effectivement nourrir ce qu'on appelle le nouvel été indien de nos vies. Alors, Pascal Bruckner, ce nouvel essai est absolument passionnant et j'ai découvert en vous lisant des choses terrifiantes. Le chiffre est vraiment énorme. 30 ans d'espérance de vie en plus depuis 1900. 30 ans d'espérance de vie en plus, mais pas 30 ans de jeunesse en plus, 30 ans de vieillesse en plus. Donc, votre nouvel essai examine cette question absolument essentielle. Que faire de ce cadeau très ambigu ?
Voilà, c'est un cadeau ambigu et qui nous est tombé dessus sans même que nous en ayons conscience, parce que les démographes ont bien constaté que les gens vivaient de plus en plus longtemps, mais les mentalités, elles, n'ont pas changé. Donc d'une part, la vision de la vieillesse est en train de se modifier, puisqu'on voit des hommes et des femmes de 50, 60, 70 ans en pleine forme, qui ont beaucoup de loisirs, et qui réclament leur part du gâteau avec avidité, parce que pour eux, évidemment, les enjeux sont plus courts. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas la jeunesse qu'on prolonge, c'est la vieillesse. Avec toute la série des infirmités que cela implique, c'est-à-dire l'apparition des maladies neurodégénératives, oui. Les cancers qui se multiplient avec l'âge. Comme je le disais, le véritable prodige, ce serait de nous maintenir à un âge de référence, 30, 40, 50 ans, et de dire, voilà, vous resterez dans cet état-là jusqu'au bout, puis un jour vous vous éteindrez, mais personne ne se rendra compte qu'en fait vous avez 80, 90 ans.
C'est ça.
Et quand on voit les photos de Jeanne Calment, c'est vrai que ça ne fait pas envie. Bien sûr, elle est vivante, mais elle est vivante biologiquement. Est-ce que c'est encore une personne avec qui on peut engager une conversation et avec laquelle on peut faire des projets? Ça n'est pas sûr. Alors il y a toutes sortes de centenaires. Il y en a qui sont extrêmement vivaces.
Parce que vous savez, je songe à cette phrase fabuleuse d'Oscar Wilde, découverte d'ailleurs en lisant votre essai. Oscar Wilde disait « Le drame de la vieillesse, c'est qu'on reste jeune ». Alors pour certains, sous-entendu avec les mêmes émois, les mêmes chagrins, les mêmes aspirations folles. Et Rimbaud, lui, écrivait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Est-ce que vous croyez vraiment qu'on soit sérieux quand on a 60, 70, 80 ans? Ou bien, comme le dit Oscar Wilde, le drame de la vieillesse, c'est qu'on reste jeune.
Oui, voilà.
Parce qu'on rêve toujours.
Le problème, c'est qu'on ne se voit pas vieillir. C'est les autres qui vous remettent dans l'ordre des générations. D'abord, c'est les enfants. Ensuite, éventuellement, les petits-enfants. C'est aussi la partenaire amoureuse qui, un jour, vous regarde en disant « Tiens, t'as une nouvelle ride, tu avais pas ça avant. » Et puis, effectivement, c'est très compliqué de s'accepter tel que l'on est. Et c'est cette tension, je crois, que j'appelle l'été indien de la vie, c'est-à-dire cette tension entre une aspiration à la jeunesse qui n'est pas morte et une réalité physique et physiologique qui vous installe quand même dans un certain état civil. On voit bien que vous n'êtes plus un adolescent.
Alors, Pascal Bruckner, on l'a bien compris, il ne faut pas vieillir résigné, mais avec ces 30 ans d'espérance de vie en plus au seuil de la vieillesse et non pas au seuil de la jeunesse, vous avouez, nous voilà comme des soldats qui allaient être démobilisés et qu'on enrôle pour d'autres batailles. Donc je me demande s'il était plus facile de vieillir, par exemple, en 1900, en tout cas ontologiquement plus simple de vieillir en 1900. Parce que là, on est cerné par de plus en plus de générations, puisque, en fait, la vie s'étire comme un élastique. Et imaginons, par exemple, au Japon, je crois, c'est absolument insensé, vous me dites qu'il y a plus de 100 000 centenaires. Donc, ça veut dire que maintenant, au Japon, on arrive à des situations ubuesques où des gens de 85 ans vont devoir s'occuper de leur maman de 105 ans. Il y a un souci dans la pyramide des âges.
Oui, là, c'est vraiment Mathusalem à tous les étages. Et alors, en 1900, je ne sais pas si les gens étaient plus heureux, mais il y avait une philosophie des âges de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque étape correspondait une attitude pour les hommes comme pour les femmes. L'adolescence devait s'engager dans la maturité. Et puis, la maturité devait accepter au-delà d'un certain âge, c'était en général à 50 ans, le déclin et tous les avantages et les inconvénients qui allaient avec. Donc nous avons complètement bousculé cette pyramide qui était finalement ancestrale. Et même si les gens avaient déjà en 1900 gagné de nombreuses années d'espérance de vie grâce au progrès de la médecine et de l'hygiène, ils s'installaient dans la vieillesse avec apaisement. Donc c'était le moment, la vieillesse, où le cours de la vie devait ralentir et où l'on rentrait dans le costume des grands-parents. Aujourd'hui, ça a changé, donc on ne sait plus exactement quoi faire. Je cite l'exemple de ce citoyen néerlandais de 69 ans qui a fait un procès contre l'État de son pays parce que, dit-il, je me sens l'âme d'un homme de 49 ans et quand je vais sur Tinder pour trouver une partenaire ou quand je cherche du travail, on me dit « tu es trop vieux ». Et dit-il, je suis en pleine forme, je veux refaire un enfant à une femme que j'aime et je veux retrouver du travail. Donc il pense qu'il est discriminé. Donc nous sommes entrés dans l'ère des générations liquides. Si, comme le disent certains, les découvertes médicales vont permettre de freiner la sénescence des cellules, et si donc le scénario à la Benjamin Button, vous savez, au fur et à mesure qu'on vieillit, on rajeunit, ça veut dire qu'on peut gagner 10, 20, 30 ou 40 ans au cours du siècle.
Et derrière tout ça, il y a le fantasme de la mort que souhaitent tant les transhumanistes avec l'homme augmenté. Europe 1. Alors, on fait une très courte pause parce que c'est absolument passionnant comme sujet. Et on retrouve bien sûr Pascal Bruckner, mon invité cet après-midi, qui fait paraître chez Grasset une brève éternité, philosophie de la longévité. A tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Une heure pour se balader dans le parcours d'un invité et faire la lumière sur son actu. Aujourd'hui, c'est un essayiste qui se raconte sur Europe 1, Isabelle Morizet.
Mon invité cet après-midi est Pascal Bruckner, qui fait paraître chez Grasset une brève éternité, philosophie de la longévité. Alors, cher Pascal, bon, on l'a dit, le grand âge est désormais l'avenir d'une partie majeure de l'humanité. Dans 30 ans, d'ailleurs, je le précise, on nous prédit sur l'ensemble de la planète deux fois plus de personnes âgées que d'enfants. Et cette longévité, naturellement, va faire cohabiter sur Terre plusieurs humanités avec des références et des mémoires différentes. En fait, avec l'évolution exponentielle du monde, la grande question vraiment qui s'impose, c'est les jeunes et les vieux risquent de parler de moins en moins la même langue.
Oui, déjà on se rend compte que c'est très difficile de parler le langage jeune, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas un certain nombre d'expressions. Alors je crois que ça a commencé dans les années 20 ou les années 30 du 20e siècle, où tout d'un coup les générations se sont trouvées disloquées. Et donc là, les jeunes générations revendiquaient de combattre celle de leurs aînés ou de leurs parents, et donc d'adopter des attitudes, des mœurs, et même un vocabulaire complètement différent. Mais ça s'est accentué dans l'après-guerre, avec la génération de 68, et c'est les fameux mots d'ordre qu'on disait dans les années 50-60, « t'es plus dans le coup, papa », parce que justement, il y avait un coup, COUP, être dans le coup, c'est-à-dire être dans la génération yéyé, rock'n'roll. Et on pensait que le vieux monde allait disparaître et qu'on le laissait derrière soi. Donc on voyait dans la personne des aînés précisément ce qu'on ne voulait pas devenir.
Ouais.
Mais ça va devenir de plus en plus accentué dans la mesure où très souvent, il faut presque un logiciel de traduction pour parler à des enfants qui ne maîtrisent pas tout à fait la langue. L'illettrisme grandissant dans l'éducation et dans les collèges et dans les universités est quelque chose qui tracasse beaucoup les professeurs. Et donc, j'ai le sentiment que pour un adulte à partir de 40-50 ans et des enfants peut-être faiblement scolarisés, il va falloir créer une sorte de GPS temporel pour de traducteur pour se retrouver avec eux et notamment leur expliquer un peu le monde dans lequel ils vivent et le monde dont nous sommes, nous, les témoins. Et donc, c'est très important, cette histoire de traduction, parce que l'illusion des aînés, c'est de croire connu tout ce qu'ils connaissent, eux. Et on oublie de remarquer que pour une jeune fille ou un jeune homme de 20 ans aujourd'hui, Jacques Chirac ou François Mitterrand, c'est déjà la préhistoire. Ce sont déjà des gens qui ne leur disent rien. Et donc, il y a une sorte d'amnésie spontanée de chaque génération. Et notre travail à nous, c'est justement, en tant que parents, enseignants, professeurs, c'est de leur rendre de la mémoire, c'est-à-dire une certaine profondeur historique.
Et puis, il y a la quête de sens. Parce que, dans le passé, les vieux transmettaient aux jeunes leur savoir, leur expérience, leur sagesse. Et particulièrement, je ne sais pas, mais je songe par exemple au continent africain. Aujourd'hui, c'est le jeune qui doit apprendre à son arrière-grand-père comment fonctionne le monde. Donc ça enlève au grand âge l'aura et peut-être le respect dont il jouissait dans les sociétés passées. N'est-ce pas, l'aïeul ?
Oui, alors ça enlève le respect qui était dû jadis aux aïeuls, mais les aïeux ne veulent plus être respectés. Ils veulent être pris et considérés comme faisant partie de la population. Ce pourquoi le premier changement qui affecte les quinquagénaires, les sexagénaires, c'est un changement au niveau du vêtement. On s'habille désormais comme nos propres enfants. Les mères s'habillent comme leurs filles, les pères comme leurs fils, parce que, justement, ils ne veulent plus être distingués comme l'étaient leurs propres parents. Alors, à propos de cette initiation à l'envers, je lisais hier dans le journal qu'à partir de 45 ans, les entreprises considèrent en France que vous entrez dans la catégorie des seniors. Ce qui est évidemment une folie, puisque à 45 ans, n'importe qui se sent encore très jeune. Mais c'est au niveau notamment des innovations technologiques, la maîtrise de l'Internet, la maîtrise de du numérique est évidemment plus lente et plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas né là-dedans que pour les indigènes digitaux, comme pour reprendre l'expression consacrée.
Mais ça nous promet une très 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 longue mélancolie puisque l'espérance de vie s'accroît de façon exponentielle.
Voilà. Alors si l'apprentissage du numérique est peut-être plus lent pour les gens à partir d'un certain âge, il peut se faire parce qu'après tout, ce n'est qu'un apprentissage technique et que quand même une personne qui est dans une entreprise entre 40 et 50 ans possède certains savoirs fondamentaux qui ne sont pas l'apanage des jeunes générations. Donc je pense que sur ce plan-là, on devrait trouver un équilibre. Mais la vraie question, c'est si nous vivons de plus en plus longtemps et si nous voulons vivre décemment, il va falloir remettre les aînés au travail. Et c'est ça, à mon avis, le grand défi de la réforme des retraites.
Oui. En Allemagne, la retraite est déjà à 67 ans. Il paraît que l'année prochaine, la Belgique va faire
pareil. Oui,
voilà,
faire pareil.
Exactement.
Et je pense qu'on atteindra bientôt l'âge de 70 ans.
D'une manière générale, Pascal Bruckner, pourquoi le jeunisme est-il le symptôme des sociétés vieillissantes ?
Parce qu'il y a eu un basculement qui s'est opéré, je pense, au XXe siècle. La guerre de 14 a été un événement décisif. C'est-à-dire que des généraux d'un certain âge, en Allemagne comme en France, comme en Angleterre, ont envoyé à la boucherie des générations entières de jeunes gens. Et donc, la guerre de 14, c'est ce moment où une société qui privilégiait jusque-là la maturité, la gravité, la profondeur, l'embonpoint pour les hommes, la barbe, tout indice qui indiquait une certaine intelligence et une certaine expérience, se rend compte que ces personnes mûres et autorisées, en réalité, nourrissaient des rêves meurtriers. Et donc, c'est le moment, après la guerre, où apparaissent le dadaïsme, le surréalisme, le cubisme, les garçons, l'évolution des mœurs, les premières explosions de l'apparition de l'homosexualité chez les hommes comme chez les femmes.
Assumer,
l'émancipation des mœurs. Et petit à petit, on se dit que la valorisation de la vieillesse qui était le propre de la société bourgeoise doit être remise en cause. Et qu'est-ce qu'on oppose à la vieillesse ? C'est la jeunesse dans toute son excellence, dans son génie, dans sa beauté. Et c'est ce moment-là où le jeunisme rentre petit à petit dans les sociétés occidentales et explose en mai 68, puisque mai 68 s'est fait aussi sous l'égide d'un slogan qui a été énoncé par un activiste américain, « Ne faites jamais confiance à quelqu'un de plus de 30 ans ». Évidemment, ce qui est très cruel, parce que passé cet âge, on est en quelque sorte mis sur la touche. Mais, et donc l'eugénisme est devenu l'étendard, c'est-à-dire qu'entre la jeunesse et la vieillesse, il n'y a plus rien aujourd'hui. La maturité semble s'être totalement diluée, ce pourquoi tant de nos aînés veulent à tout prix ressembler à leurs propres enfants ou en tout cas ne veulent pas être confondus avec le congénère.
On retrouve tout de suite Pascal Bruckner.
Europe 1. Il est 15h20 et on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec le philosophe, romancier, essayiste Pascal Bruckner à l'occasion de la parution d'un essai.
Pascal Bruckner vient de publier chez Grasset « Une brève éternité, philosophie de la longévité ». Cet essai est passionnant et justement, il appelle tant de questions. Par exemple, je voudrais évoquer cette phrase de Jean Paulhan que je trouve absolument magnifique et que vous citez dans votre livre. Il disait « J'espère vivre jusqu'à ma mort ». Car effectivement, c'est tout un art de réellement vivre jusqu'à sa mort. Et il y a deux postulats pour y parvenir. Vis comme si tu devais mourir demain ou vis comme si tu ne devais jamais mourir. Elle est belle, cette phrase de Paulhan.
Alors, elle est belle et elle pose un problème philosophique redoutable, enfin un problème existentiel à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous pouvons être vivants biologiquement sans exister. C'est-à-dire sans avoir des rapports avec les autres, sans pouvoir se projeter dans le monde, sans avoir la moindre implication dans la société. Et c'est malheureusement le spectacle que nous offrent à l'hôpital les certains services dits de long séjour pour les gens qui sont condamnés, les EHPAD, où les gens sont vivants, leur cerveau fonctionne, leur cœur bat, mais ce sont des morts vivants très souvent, ou ce sont des survivants. Et le pari que chacun d'entre nous fait, d'être vivant jusqu'à la mort, c'est justement de pouvoir continuer à communiquer avec les autres, d'être autonome, de ne pas être dans une dépendance totale, de pouvoir lire, écrire, marcher. Et c'est là le grand défi d'une vieillesse prolongée. Et si on ne relève pas ce défi, on va remplir probablement des établissements de personnes invalides, mais on ne va pas rendre la vieillesse très désirable. Et puis je rajouterai une chose, c'est que dans notre vie quotidienne, et ce à tout âge, il nous arrive à nous aussi de nous conduire comme si nous anticipions déjà une certaine mort, de nous conduire comme des zombies. Je parle pas mal des zombies dans le livre parce que c'est un phénomène qui me fascine. Le mort-vivant, c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous lorsque nous sommes pris dans des automatismes qui dérègle en quelque sorte notre existence et où nous avons le sentiment de ne plus rien maîtriser parce que c'est une logique qui nous aliène. Et donc le pari, voilà, c'est de rester non seulement maître de sa vie plus ou moins, mais de pouvoir être un humain qui continue à la fois à profiter du moment présent, mais qui aussi puisse envisager un futur viable et heureux. Et donc l'équilibre est assez précaire, mais nous avons tous senti à un moment ou à un autre dans notre vie que nous étions non pas des vivants de plein titre, mais des automates. Et lorsque chacun de nous est réduit à l'automate, c'est déjà une anticipation de la mort. D'où la phrase très belle de Brecht, il faut craindre une vie mauvaise plus que la mort.
Alors le temps, ce temps qui s'étire, qui nous est promis au terme de notre vie avec cette longévité inattendue, est au cœur de votre livre. Moi, je voudrais évoquer le temps suspendu de l'enfance. On va repartir vers votre enfance, Pascal Bruckner, car bon, les enfants ne voient pas le temps courir. L'enfance, c'est pour eux plus un état qu'un chapitre de leur vie. Vous qui n'avez pas été aimé par votre père, qu'en retour, vous n'aimiez pas follement, vous étiez pressé de devenir un adulte ?
Ah non, pas du tout. Alors, en fait, si, je pense que j'ai été aimé par mon père, mais mon père était assez violent, donc il avait du mal à exprimer sa tendresse, et qui est apparue quand il était beaucoup plus âgé. Mais non, j'ai adoré mon enfance. Alors, je pense qu'elle a été, en fait, assez dure, parce qu'il y avait des tensions familiales entre mon père et ma mère, et c'était un tempérament éruptif. Mais je l'ai adoré parce que précisément, c'est l'éternité d'un temps suspendu.
C'est ça.
Où l'on est irresponsable, où l'on grandit, mais l'on grandit sans être en quelque sorte contraint d'assumer sa propre existence. et où l'on peut s'évader par la lecture, par les jeux, par l'école. Et j'ai eu la chance, si on peut dire, de tomber malade jeune, donc d'être envoyé dans des sanatoriums. Et là, j'ai connu la vie collective, avec tout ce qu'elle a de charmant et de riant, quand on vient d'une famille où les rapports sont souvent assez agressifs. Et donc, j'ai vécu en Autriche et en Suisse, dans des préventoriums, des sanatoriums, et ça m'a énormément plu. Et j'ai quitté ensuite cette ambiance pour retourner au collège à Lyon, chez les Jésuites. C'était beaucoup moins drôle, parce que là, je rentrais dans l'âge adulte. Donc, comme tout adulte aujourd'hui, enfin grand adulte, j'ai évidemment la nostalgie de cette période d'irresponsabilité et d'immaturité totale, où le monde n'était qu'un champ à explorer et qui me prodiguait en retour tous ses bienfaits et toutes ses bontés. Alors sans doute, est-ce une façon d'idéaliser son enfance que nous avons tous, mais oui, bien entendu, je la vois comme ça aujourd'hui.
Alors vous la voyez comme ça aujourd'hui, vous me permettrez de creuser un tout petit peu, parce que vous avez quand même écrit « Le cadeau que m'a fait mon père, c'est qu'il m'a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite. » Et alors moi, je pense à Gérard Garouste, qui a appris par exemple à parler l'hébreu parce que son père était antisémite. On met du temps à se trouver quand on se construit contre et pas avec.
Eh bien, je pense que c'est beaucoup plus facile de se construire contre.
C'est plus facile.
Oui, je pense que c'est beaucoup plus facile et que c'est un peu le drame des éducations d'aujourd'hui. C'est qu'elles sont trop libérales et que les hommes comme les femmes n'ont plus de contre-modèle auquel s'opposer. C'est-à-dire que les parents sont sympas, ils veulent absolument accueillir l'enfant dans toutes ses facettes, ne rien lui interdire, ne rien lui reprocher. Et donc, on voit les petits se battre à toute force pour détester ou contredire un père ou une mère qui disent oui à tout. Et donc, au moins dans ma génération, qui était une génération encore assez classique, où les châtiments corporels étaient la règle, non pas parce que les parents étaient plus méchants que d'autres, mais tout simplement parce que ça se faisait comme ça. On giflait, on fouettait quand l'enfant était mal élevé ou qu'il faisait des bêtises, et personne n'avait l'esprit de s'en plaindre. Donc, oui, je pense que ça a été plus facile parce qu'au moins j'avais un objectif.
Et vous aviez alors quel objectif lorsque vous avez entrepris de faire Hippocagne et Cagne à Henri IV, puis des études de philosophie, au cours desquelles d'ailleurs vous avez eu Roland Barthes comme directeur de thèse. Vous cherchiez un salut particulier,
oui,
Pascal Bruckner.
Oui, vous avez tout à fait raison, je pense qu'on cherche un salut dans l'existence. Et je pense que s'il y a un salut, pour reprendre cette notion religieuse, il est ici-bas, sur Terre. Chacun de nous ici-bas, sur Terre, fait son enfer, son paradis ou son purgatoire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ciel après la vie, mais moi je suis plus intéressé à la vie avant la mort qu'à la vie après la mort. En tout cas, il faut réussir sa vie ici-bas, si possible, parce qu'ensuite, comme disait Kierkegaard, les religions sont des agences de transport très onéreuses qui ne nous garantissent pas du tout l'arrivée à bon port, puisque personne n'est jamais revenu pour nous dire que le voyage en valait la peine. Je trouve cette phrase merveilleuse. Donc,
Kierkegaard avait un certain humour.
Un certain humour, alors qu'il était lui-même un homme très pieux. Oui, c'est le salut, mais c'est un salut laïque. Et donc ce salut, c'est un travail au quotidien. Donc je pense que, pour reprendre une phrase de Romain Gary, la vie est faite de petits aujourd'hui. Hein, je trouve que c'est une très jolie phrase, parce que c'est dans l'instant et dans l'heure qui vient que réside mon salut, et non pas dans l'espérance d'une vie éternelle.
On retrouve tout de suite Pascal Bruckner.
Europe 1. Il réfléchit sur les grandes questions de la vie. L'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, jusqu'à 16h sur Europe 1.
Quel beau métier que d'expliquer le monde. Je reçois le philosophe Pascal Bruckner, qui publie chez Grasset Une brève éternité. D'ailleurs, Pascal Bruckner, est-ce que c'est un métier, philosophe ?
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une aspiration. C'est une qualité que tous les hommes peuvent partager, car tout le monde, à un moment ou à un autre, est obligé de s'interroger sur son destin. Et je pense que l'été indien de la vie, c'est-à-dire cette période entre la maturité et la vieillesse que nous vivons aujourd'hui, c'est par excellence l'âge philosophique, puisque chacun se pose des questions. Que m'est-il permis d'espérer ? À quoi dois-je renoncer ? Et à quoi dois-je au contraire m'accrocher ? Est-ce qu'il est encore légitime pour moi de désirer telle ou telle chose ?
Oui, mais alors, pardonnez-moi, je vous provoque. Bonjour, je suis philosophe. En fait, ça revient à dire bonjour, je suis penseur. Est-ce que le fait d'avoir un doctorat ou une maîtrise de philo fait forcément de vous un philosophe?
Absolument pas. Vous avez tout à fait raison de me poser cette question. C'est un philosophe professionnel, c'est-à-dire capable d'enseigner.
Voilà.
Mais dans la vie de tous les jours, aucun d'entre nous n'est philosophe. Nous sommes, comme tout un chacun, traversés de passions, de désirs peut-être inavouables, de penchants plus ou moins bienveillants vis-à-vis d'autrui.
Alors là, vous parlez de la multitude, mais en plus, tous les profs de philo ne sont pas philosophes.
Non, tous les profs de philo ne sont pas philosophes. On est philosophe, je vais vous dire, on est philosophe au crépuscule. Pas simplement de la vie, mais de la journée. Quand on se remémore ce qu'on a fait, c'est le fameux examen de conscience des anciens, qui a été repris aussi dans le christianisme. On se dit, aujourd'hui, j'ai passé une journée, quelles erreurs ai-je commises? Quelles belles choses ai-je faites? Et moi, on fait ça spontanément tous les jours, alors le lendemain quand on se réveille. Mais donc, la philosophie, c'est Hegel qui disait la chouette de Minerve, c'est-à-dire l'oiseau de la sagesse, ne se lève qu'au coucher du jour. Et c'est vrai, on est toujours philosophe après coup. Donc, c'est pour ça qu'on écrit des livres, pour éviter peut-être de recommencer les mêmes erreurs. Mais dans la vie de tous les jours, personne n'est philosophe. Tout le monde est habité par des passions.
Mais à l'ère numérique, Pascal Bruckner, être philosophe, c'est être un lanceur d'alerte, non ?
Oui, alors il y a
Les philosophes actuels sont tous des commentateurs politiques.
Il y a ça, on peut être un commentateur politique. Non, je pense que le travail de l'intellectuel ou du philosophe, c'est notamment de ne pas laisser le langage se figer en un certain nombre d'expressions fausses. Et donc, notre travail, outre de réfléchir sur les grandes questions de la vie, c'est aussi peut-être de désamorcer les pièges du conformisme sémantique ou idéologique du moment. Ça, c'est aussi une manière de penser son temps en pensant contre son temps.
Oui, mais au nom de la quête de sens, on prend le pouvoir sur les esprits.
Alors oui, un philosophe peut évidemment verser dans la conquête du pouvoir, mais il est plus philosophe si au contraire il désamorce ces tentatives-là et s'il essaie de rendre à chacun une part de sa liberté d'esprit critique.
Pascal Bruckner, ça existe un philosophe populaire, ou bien populaire, c'est un gros mot à côté du terme philosophe?
Ah non, il y a énormément de... Non, non, non. Alors, je pense qu'il peut y avoir une philosophie pour tous, à une condition, d'une part, c'est d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec ses lecteurs ou ses auditeurs, et de dénoncer ce que l'on dit dans un langage clair. Lorsque j'étais étudiant, c'était l'époque du structuralisme, oui, où on abordait les textes et les choses dans une rhétorique totalement obscurantiste. Les textes d'un certain nombre de grands philosophes, Derrida, Deleuze, parlaient dans un charabia obscur, très souvent pour dire des banalités. Alors je pense que les philosophes aujourd'hui, ceux en tout cas qui
disent des choses profondes,
disent des choses profondes, d'une manière claire et simple. Comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Voilà.
Et je crois que la règle d'or du classicisme français doit continuer à nous inspirer.
Alors, les lecteurs de vos essais philosophiques, comme par exemple le tout dernier, Une brève éternité, qui vient de paraître chez Grasset, vos lecteurs appartiennent à tous les publics, tous les milieux.
Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je pense.
Vous avez certainement une petite idée.
Oui, j'ai une petite. Alors, c'est plutôt un milieu d'enseignants, de professeurs, d'éducateurs ou de professions libérales. Mais mon plus grand plaisir à moi, c'est quand je suis abordé dans la rue, dans un café, par un jeune homme ou une jeune femme qui me disent « J'aime beaucoup ce que vous dites, j'ai lu tel ou tel livre, je suis particulièrement sensible à votre problématique. » Parce que, évidemment, c'est les gens de mon âge qui me lisent. Ça suit la strate des générations. Mais quand c'est quelqu'un de très jeune...
Le début de notre conversation.
Voilà. Mais quand c'est quelqu'un de très jeune, vous vous dites « Tiens, j'ai semé quelque chose chez des gens qui ont l'âge de mes propres enfants. » Et là, on est touché parce que sinon, on est prisonnier de son propre milieu et de son propre état civil. Donc, l'un des grands paris de la société du vieillissement, ça va être de maintenir les générations dans un état de conversation perpétuelle.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faut avoir des traducteurs et qu'il faut aussi être à la fois initié et initiateur, parce que sinon, on parle enfermé dans sa bulle. Et là, ça devient un monologue entre personnes qui se comprennent. Et ça me fait penser à ce que les États-Unis ont inventé de plus triste, c'est les gated communities, vous savez, c'est ces communautés de personnes âgées qui vivent à l'abri de murs avec des gardiens armés où les chiens et les enfants sont interdits. Et là, je trouve que c'est une image cauchemardesque du monde.
Pascal Bruckner, alors que reste-t-il, par exemple, 42 ans plus tard, du courant de pensée des nouveaux philosophes auxquels vous avez appartenu avec Alain Finkielkraut et qui est né médiatiquement, en tout cas en 1977, sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, avec le très jeune et très fringant Bernard-Henri Lévy. André Glucksmann était là aussi. Donc, effectivement, grâce à la télé, les nouveaux philosophes avaient un visage. Mais est-ce qu'une nouvelle philosophie émergeait réellement ?
Alors, oui, c'est, le terme est un malentendu. Voilà, ce qu'on dit Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann avec une totale justesse à l'époque, c'est ce que disaient déjà Raymond Aron et Albert Camus depuis un certain nombre d'années. C'est ce que disaient aussi un certain nombre d'intellectuels anglo-saxons, mais qu'on n'entendait pas en France. Et donc, grâce à leur télégénie et grâce à leur talent oratoire, Glucksmann et BHL
se sont fait comprendre du plus grand nombre
et ont ébranlé durablement et à mon avis définitivement l'hégémonie du Parti communiste sur l'intelligentsia française à cette époque. Et donc effectivement ensuite Alain Finkielkraut et moi-même avons été rattachés à ce courant, puisque moi j'ai fait un livre qui s'appelait Le sanglot de l'homme blanc sur le tiers-mondisme, et à mon avis le tiers-mondisme c'est ce qui subsiste aujourd'hui du totalitarisme dans nos esprits. Mais oui, c'est un peu un contresens médiatique, mais enfin en tout cas on se rappellera d'eux sous cette appellation, et après tout qu'importe que ce soit un contresens.
Bien sûr, mais si on ne se place pas sur un terrain politique, avec 2000 ans d'écart, on peut dire que les anciens et les modernes disent à peu près les mêmes choses quand il s'agit de trouver un sens à l'existence.
Ah ben oui, c'est-à-dire que l'homme est confronté exactement au même défi depuis l'époque des Grecs, puisque on parle du miracle grec de la philosophie, c'est tout à fait exact.
Au même défi, mais avec un combat plus long, puisque, comme le dit votre nouvel essai, maintenant, on nous promet une longévité
accrue,
au-delà de 100 ans.
Oui, c'est un changement fondamental sur au moins deux points. D'une part, notre rapport au risque n'est plus le même. Être un héros à l'époque de l'Odyssée ou de l'Iliade, c'était mourir peut-être jeune, mais de toute façon, l'espérance de vie s'arrêtait 5 ou 6 ans après. Donc on mourait les armes à la main sur le champ de bataille, mais de toute façon, la vie était brève. Et donc le risque aujourd'hui n'est pas la même chose. Quand vous risquez votre vie à 20, 30 ou 40 ans, vous avez devant vous peut-être encore un demi-siècle d'existence possible. Mmh. Et donc il y a plus de grandeur dans l'héroïsme contemporain que dans l'héroïsme passé. Deuxième point, l'amour. Faire à 17 ans dire à sa promise sur l'autel devant le prêtre qu'on lui jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'était faire un serment d'ivrogne, puisque de toute façon, la jeune mariée risquait 9 fois sur 10 de mourir en couche et que l'époux, à son tour, allait mourir avant 30 ans. Faire le même serment aujourd'hui à 20 ans n'a pas du tout le même sens, puisqu'on risque de vivre 40 ou 50 ans ensemble, ce qui explique l'explosion des divorces entre 20 et 30 ans pour les jeunes générations, entre 50 et 70 pour les générations plus âgées. Donc vous voyez que la longévité, ce n'est pas simplement une addition mathématique d'années, c'est un bouleversement complet de notre rapport au monde. Et ça, il faut vraiment le penser, le préparer et savoir que nous aurons probablement plusieurs destins au cours d'une même vie.
Voilà, il faut reconstruire en fait le concept de vieillesse. Mais je précise qu'il n'y a aucune amertume dans ce récit que vous faites paraître chez Grasset. Voilà.
L'amertume, ce que Montaigne appelait les rites de l'âme, est l'ennemi de tout être humain à partir de la maturité. Haïr la vie, c'est le meilleur moyen d'avoir une vie détestable.
On retrouve Pascal Bruckner tout de suite.
Europe 1. L'espérance de vie a augmenté de 20 à 30 ans, l'équivalent d'une existence au XVIIe siècle. Cela fait l'objet d'un essai signé Pascal Bruckner et il est l'invité d'Isabelle Morizet. Jusqu'à 16h sur Europe 1, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Pascal Bruckner, votre obsession du temps qui passe, qui fuit, qui s'enfuit, devrait vous faire détester les montres. C'est le contraire. Depuis toujours, vous êtes fasciné par cette sphère parfaite, la montre, dont vous dites qu'elle est en fait le lieu géométrique de la jonction du temps et de l'éternité, avec son aiguille qui est la porte étroite entre le passé et le futur. Vous êtes un collectionneur de montres ?
Oui, je collectionne les montres depuis quelques années. En fait, ça a commencé à la cinquantaine.
Et il se trouve que j'ai... C'est symbolique.
Oui, non, c'est symbolique. Je pense qu'effectivement, on tente de capturer le temps à l'intérieur d'un cadran. Et puis, comme les montres sont le seul bijou qu'un homme peut porter, c'est très valorisé. Et il se trouve que je partage cette passion avec Luc Ferry. Nous nous donnons des tuyaux. Oui. Et comme j'aime beaucoup la Suisse où je vais assez souvent, j'aime bien regarder les nouveautés qui malheureusement sont inaccessibles. Donc il faut économiser beaucoup pour s'acheter une montre.
Pour s'acheter son rêve.
À peu près décente. Mais le fait que ce soit difficile fait que le rêve a un prix. Si les montres ne valaient rien, eh bien, effectivement, elle n'aurait aucune valeur à nos yeux.
Alors, à celui qui porte une montre, on demande toujours l'heure exacte. Mais l'heure exacte n'existe pas, puisqu'elle nous file entre les doigts à chaque seconde. Vous regardez souvent votre montre ?
Oui, je la regarde. Non,
mais pas pour le temps qui fuit.
Non, non pas tant pour savoir l'heure, mais pour savoir si elle ne s'est pas arrêtée. Donc, je porte des montres de collection. Elles sont très imprécises.
Si elle s'arrête, la vie s'arrête ?
Non, si elle s'arrête, c'est embêtant. On est obligé de consulter son portable. Mais mes enfants ne portent pas de montre. J'ai voulu offrir une montre à ma fille qui est dans sa vingtaine. Elle me dit « laisse tomber, j'ai mon portable, ça me suffit ». Donc on voit bien que la conception du temps change, ouais. Les références ne sont pas la même, mais la montre ne disparaîtra jamais parce qu'elle est, évidemment une œuvre d'art portative qui peut appartenir à chacun d'entre nous. Et donc mon ambition, c'est d'en acquérir autant que je pourrais jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois, il y a ce petit frisson du collectionneur qui achète une pièce nouvelle et qui, une fois la pièce achetée, vous savez, c'est le tourment du collectionneur, se dit « et quelle va être la prochaine ?»
Alors, que faut-il le plus redouter, en fait, dans une vie ? La mélancolie de ce qui passe ou la perpétuité de ce qui ne passerait jamais ?
Alors, voilà, c'est toute la tragédie de l'existence, c'est que nous ne cessons de vouloir, jour après jour, retenir les heures fugaces. Nous ne cessons de vouloir éterniser un moment délicieux. Imaginons un dîner entre amis où tout d'un coup se dégage une sorte d'atmosphère extraordinaire. On n'a plus envie d'arrêter, on veut rester le plus tard possible ensemble. On boit, on fume, on chante. Et puis on se dit, je viens de passer un moment délicieux. Quel dommage que ce soit fini. Est-ce que je retrouverai jamais un tel instant de communion ? Et en même temps, on sait parfaitement que si ces moments-là duraient, ils finiraient par devenir insipides. C'est-à-dire que c'est toute la tragédie du bonheur. Nous cherchons le bonheur, mais si le bonheur se confondait avec la vie quotidienne, alors il deviendrait à son tour insipide et serait une sorte de marqueur de la banalité. Et donc nous devons à la fois lutter contre le temps qui passe et chérir ce passage, oui, parce oui. qu'il est aussi le signe de notre capacité à vivre des moments qui ne reviendront plus. Aimer ce que jamais on ne reverra deux fois, disait le poète. Oui, c'est abominable, mais en même temps, c'est peut-être la condition d'une vie heureuse. La vie est tragique par nature, puisque de toute façon, nous allons mourir. Donc, autant
ça se termine mal. Vivre ça,
oui, oui. Donc, autant vivre bien avant et ne pas avoir des aspirations absolument irrationnelles.
Mais alors, Pascal Bruckner, le problème avec ce qui passe, c'est que ça nous amène à une fin. Et en 2011, j'ai appris quelque chose de tout à fait étonnant en lisant votre livre, Une brève éternité. En 2011, l'artiste Orlan, qui est une artiste plasticienne célèbre dans le monde entier, Orlan donc avait lancé une pétition en ligne d'un genre nouveau, une pétition tout simplement contre la fatalité de la mort. Elle avait écrit « Ça suffit, ça a duré depuis trop longtemps, ça doit s'arrêter, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas mourir, je ne veux pas que mes amis meurent, il est temps de réagir contre la mort ». Alors on se demande pourquoi personne jamais ne s'indigne, même si c'est très enfantin de le faire, mais devant cette fatalité.
Ah ben, depuis que l'humanité existe, tous les hommes se sont révoltés contre
la
mort.
Le dire, oui, mais pas de cette façon,
alors
soudain.
Alors elle le dit à la manière très contemporaine de l'individu infantile qui voudrait que tous ses caprices
ça suffit,
soient
en
réalisés.
Pied.
Oui, ça suffit,
on change de concept.
Je ne veux plus mourir. Alors un certain nombre de millionnaires et de milliardaires voudraient craquer le code de l'ADN pour enfin découvrir le secret de l'immortalité. Mais enfin, c'est un mythe aussi ancien que l'humanité. Et les religions ont été inventées par les hommes pour justement leur accorder outre-tombe cette immortalité dont ils ne jouissent pas ici-bas. Bien sûr que la mort nous révolte, et surtout la mort des gens qu'on aime, mais en même temps, si la mort n'existait pas, je pense que la vie n'aurait aucun prix. Si on avait la perspective de vivre pour toujours, à ce moment-là, à quoi bon travailler, à quoi bon s'empresser, à quoi bon tomber amoureux, puisque de toute façon, nous aurions le temps et nous pourrions toujours reporter au lendemain les projets que nous devrions accomplir aujourd'hui. Donc la mort est une atrocité, mais peut-être une atrocité nécessaire.
Oui, en fait, il y a beaucoup à craindre de la mort de la mort.
Oui, je pense que la mort de la mort est un rêve éternel qui est réactualisé aujourd'hui par les prouesses scientifiques, notamment à travers le transhumanisme.
Voilà.
Mais réjouissons-nous déjà de pouvoir rallonger la vie et laissons la mort où elle est, car je crains qu'elle ne soit indispensable à l'éclosion de nouvelles générations.
On retrouve tout de suite Pascal Bruckner.
Europe 1. Depuis 15h, on parle du temps qui passe sur Europe 1. Dans son livre Une brève éternité, philosophie de la longévité, Pascal Bruckner médite sur le grand âge. On le retrouve au micro d'Isabelle Morizet pour quelques minutes encore.
Pascal Bruckner, depuis le début de cette conversation, on revient par des chemins divers sur le sujet de l'immortalité. Or, vous, l'année dernière, de manière très prosaïque, eh bien, vous avez été candidat à l'immortalité. Il s'agissait de l'élection à l'Académie française, au fauteuil de Michel Déon, laissé vacant en 2016 donc. Mais vous n'êtes pas entré sous la coupole par faute de majorité des voix. Est-ce que vous allez vous représenter ?
Alors écoutez, je n'en sais vraiment rien, parce que c'est une immortalité honorifique, l'Académie française.
Bien sûr.
J'y compte beaucoup d'amis et de gens tout à fait prestigieux. Écoutez, je ne sais pas, je vais voir, j'ai encore 5 ans devant moi, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Mais je reste persuadé que on est immortel tant qu'on arrive à créer, à écrire, à aimer et à s'engager auprès des autres. Et donc, cette immortalité-là, voilà, j'y repenserai. Si on me sollicite, peut-être. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'avis arrêté.
En janvier de cette année, c'est Luc Ferry qui échouait à devenir immortel. Alors que votre ami Alain Finkielkraut, avec lequel vous avez écrit Le Nouveau Désordre Amoureux, porte l'habit vert depuis 2014. Donc il y aurait une mélancolie à ne pas être reconnu par ses pairs si vous vous présentez à nouveau. Vous nous avez dit que vous aviez 5 ans pour cela.
Oui, j'ai encore 5 ans. Enfin, mélancolie, non, pas une mélancolie, mais tout le monde sait que l'entrée à l'Académie, c'est un peu une loterie, donc les gens veulent vous faire patienter parce qu'ils n'ont pas envie que vous ressusciez peut-être du premier coup, surtout si eux-mêmes ont été recalés. Mais non, honnêtement, si ça marchait, je serais content. Si ça ne marche pas, je ne serais pas malheureux. Vous voyez, ce qui compte avant tout pour un auteur, c'est vraiment la reconnaissance du public, c'est d'avoir des lecteurs, c'est d'avoir des interlocuteurs intelligents, c'est d'être estimé par ses pairs. Je crois que ça vaut toutes les académies du monde et tous les titres honorifiques. Mais encore une fois, je ne vais pas être maximaliste, je ne refuse aucun titre, aucun honneur. Et comme tous les enfants gâtés de ma génération, j'accepte les deux.
En tout cas, cette bataille pour entrer à l'académie, elle est presque anecdotique par rapport à celle que vit depuis plusieurs années Roman Polanski, immense cinéaste qui, lui, est conspué par ses pairs et une grande partie du cinéma international. Polanski, d'ailleurs, avait adapté au cinéma votre roman Lune de Fiel. Et pour Polanski, eh bien, vous vous demandez s'il survivra à la chasse aux sorcières lancée par les mouvements féministes que vous comparez à une sorte de maccartisme.
Oui, je crois que la comparaison est tout à fait justifiée. Alors, il s'est passé des événements récemment plutôt favorables à Roman Polanski. Il a eu le Lion d'Argent à Venise, il aurait probablement eu le Lion d'Or si la présidente du jury ne lui avait pas été hostile.
Pour son nouveau film J'accuse, n'est-ce pas ?
Pour son nouveau film très beau J'accuse, qui raconte l'affaire Dreyfus. Mais outre ce Lion d'Argent, Samantha Gettner, qui est donc la jeune femme qu'il a violée quand elle avait 13 ans, vient de le féliciter pour son titre, dit qu'elle lui a officiellement pardonné et elle supplie la justice américaine et les mouvements féministes d'arrêter leurs attaques contre Polanski, car, dit-elle, c'est presque comme un second viol dans ma vie et je ne veux plus que mon nom soit associé à cette affaire. Donc vous voyez, je pense que Polanski, malheureusement, jusqu'à sa mort, va traîner cette affaire, que les quelques vengeresses qui veulent absolument avoir sa peau finiront par gagner, mais la postérité lui reconnaîtra quand même son lustre et son talent. Parce que je rappelle qu'il a reconnu sa faute, il a fait de la prison, il a payé une somme à la justice américaine et à son ancienne victime, il a fait un deal, comme on le fait aux États-Unis avec le juge et le procureur, et c'est la justice américaine qui a violé, c'est le juge qui a violé ce deal, ce qui explique d'ailleurs pourquoi en 2010, lorsque la Suisse assigne Roman Polanski à résidence à Gstaad dans son chalet, le gouvernement helvétique suisse reconnaît que la demande américaine d'extradition n'est pas viable parce que les États-Unis ont violé leur propre code juridique. Donc, pour Roman Polanski, évidemment, c'est terrible. Mais c'est un homme qui a affronté tellement d'adversités que je pense qu'il pourra traverser celle-là.
Et parlons plutôt de son œuvre. Roman Polanski a 86 ans. Et on vient de dire que son dernier film, J'accuse, a été honoré à la Mostra de Venise. Donc Polanski démontre à 86 ans qu'il ne faut jamais être dans le renoncement.
Bien sûr, je l'ai vu beaucoup cet été puisque je l'ai interviewé pour le dossier de presse de J'accuse. Donc il m'a reçu en short. Là aussi, c'est nouveau. Un octogénaire en short. Ah ben, dans la génération de mes parents, de mes grands-parents, c'était
ça
impensable. On est allé se balader dans son quartier, on est allé dîner au restaurant. Il est d'une vivacité incroyable. Il court dans la rue pour traverser au feu rouge. Il a 1000 projets. Il veut recommencer un nouveau film. Quel encouragement pour les gens de mon âge, pour les gens de 60 ans, pour les gens de 50 ans. Pensez à tous ces grands cinéastes, Clint Eastwood, Woody Allen, tous ces grands musiciens. Martha Argerich, Martial Solal, pour les plasticiens, les peintres, qui continuent sous l'âge, qui a, je crois, 100 ans aujourd'hui. Tous ces gens qui continuent à exister, qui sont toujours vivants et qui ne sont pas réduits à l'état de légumes. Donc voilà, ce sont des héros qui nous tirent, en quelque sorte, au-dessus de nous-mêmes et qui nous disent, à cette altitude, une vie plaisante et humaine est encore possible. Donc gardez l'espoir.
Chaque jour, il faut revenir au monde. Chaque matin de la vie doit être une résurrection.
Oui, voilà. C'est-à-dire que le rêve que nous avons tous, c'est que chaque matin nous remette au monde. Et chaque matin, je pense, c'est une certaine manière, en sortant du sommeil et des rêves, de renouer une alliance amicale avec le monde. Faire son café ou son thé, prendre une douche, écouter les nouvelles, c'est retourner dans le siècle avec l'espoir que cette journée nous apportera peut-être des événements inattendus, voire merveilleux, et qu'elle ne ressemblera pas forcément aux journées qui l'ont précédée. Et donc c'est cette remise au monde que chacun d'entre nous doit quêter. Au fond, chaque jour devrait être idéalement une renaissance à soi-même et aux autres.
Vous faites paraître chez Grasset une brève éternité, philosophie de la longévité. Merci infiniment pour cette conversation, Pascal Bruckner.
Merci à vous, j'étais très heureux d'être là. Merci.
À très bientôt.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet revient le week-end prochain, dès 15h sur Europe 1, avec de nouveaux invités. Il y aura l'ex-auteur des Guignols de l'Info et comédien Bruno Gassio, bientôt sur les planches à partir du 3 octobre. Et puis le comédien et cinéaste Jalil Lesper, le réalisateur de la série Versailles sur Canal+, ou encore du film Yves Saint-Laurent avec Pierre Niney. Europe 1. Il est 16h.